Bonsoir à tous, Yakuba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama Suivez Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yakuba. Bonsoir à tous.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Élisée Oumpatine depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Africa.
Nous retrouvons Amdine Si dans l'Ohio ici aux États-Unis. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, Thierry Kambundi de Top Congo FM va nous rejoindre. Merci à vous de votre présence et merci à vous, hein, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons bien évidemment par la finale aller de la Coupe CAF. Le Raja Casablanca a fait couler l'AS Vita Club, opposé au club congolais de V Club. Le club marocain s'est imposé 3-0 à domicile et voyagera sereinement cette semaine, bien sûr, à Kinshasa. Raimi a ouvert le score à la 47e minute après une talonnade astucieuse de Ben Ali. Le même Raimi a signé un doublé à l'heure de jeu avant que Ben Ali ne vienne marquer le troisième but du Raja sur pénalty à la 66e. Nous allons écouter tout de suite l'entraîneur du Raja Casablanca, Juan Carlos Garridos.
Notre équipe, la première mi-temps, a fait un match avec beaucoup de pression, avec beaucoup de chances de but. L'unique différence, c'est que ça ne fait pas le but. Alors le message, c'est simple. Nous devons continuer avec de la même manière. Et avec de cette manière, le but, bien sûr, qui arrive. Le football, c'est comme ça. En la deuxième mi-temps, à la première action, arrive le but, fait la différence. Mais je pense que la première mi-temps de l'équipe, c'est magnifique. Et la deuxième mi-temps, c'est normal, mais avec la différence que nous avons fait les trois buts. La semaine prochaine, il y a notre match, un match très dur. Aujourd'hui, j'ai seulement prédit que nous avons fait la première part de ce match. Semaine prochaine, il y a un autre match et nous devons travailler très bien pour être bien concentrés pour le prochain match.
Alors, Amine, les choses ne furent pas pour autant faciles pour le Raja, tenu en échec 0-0 avant la pause, en dépit de nombreuses occasions obtenues.
Raja qui a alterné vitesse et précipitation lors de la première mi-temps, qui nous a confondus. Raja qui s'est créé énormément d'occasions. Aujourd'hui, on peut dire que la tactique choisie pour le match, le 4-3-3, avec notamment Hafidi derrière les trois attaquants de pointe, a été payante puisque le Raja a dominé l'entrejeu, s'est créé des espaces, a essayé d'élargir le terrain en utilisant systématiquement deux ailiers de débordement, notamment à gauche Zakaria Hadras. On a vu une équipe congolaise quasiment anesthésiée par ce pressing du Raja Casablanca. L'AS Vita Club ne s'est pas procuré pendant la première mi-temps la moindre occasion de scorer. Le score, le 0-0, ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. On a vu après la pause une équipe du Raja beaucoup plus concrète, beaucoup plus calme. Et c'est ce calme devant le but qui a permis d'entrer, de marquer le premier but par Rahimi. C'était une belle talonnade de Ben Ali, le meilleur buteur de la compétition. Puis d'inscrire un deuxième but sur une phase de jeu où les joueurs de l'AS Vita Club n'ont pas touché le ballon pendant 1 minute 30. Puis ensuite de provoquer le pénalty qui a abouti au score final inscrit par Ben Ali. Une victoire méritée du Raja de Casablanca. Seul bémol, c'est que le Raja, qui était en supériorité numérique pendant les 25 dernières minutes de la rencontre, aurait pu pousser davantage pour inscrire un quatrième, voire un cinquième but et sceller le sort de cette finale. Le Raja a opté pour une tactique un peu plus conservatrice, garder le résultat, se conformer avec ce 3-0, qui est un avantage non négligeable. Le Raja a un pied et trois orteils, vers le sacre, mais le sacre n'est pas encore scellé, car il y a une manche retour à Kinshasa, et gageons que l'équipe de l'AS Vita Club ne s'est pas encore avouée vaincue.
Merci bien. Amine, bien évidemment, face, c'est la déception, mélangée à un sentiment d'impuissance. Écoutons l'entraîneur de V Club, Florent Ibengué.
Nous, on a été complètement battu dans tous les duels. On avait décidé de ne pas attendre, mais on a attendu. On a été battu dans tous les duels et on a laissé jouer cette première mi-temps de façon extraordinaire. Le Raja a pu développer son jeu comme il voulait. Là, on était complètement absent. On est ressorti, on va dire, les trois dernières minutes de la première mi-temps et on a montré qu'on était capable de jouer et de poser des problèmes au Raja pendant les trois dernières minutes. Mais le Raja est arrivé avec une hargne terrible. Ils ont mis la pression dans tous les sens du jeu. L'arbitre a un peu craqué en nous distribuant des cartons.
Encore Florent Ibengué, l'entraîneur de l'AS Vita Club. Alors Jules, l'AS Vita croyait avoir fait le plus dur et avait sans nul doute à la tête de gérer la deuxième période comme la première, mais c'était sans compter avec la détermination des locaux qui ont plié la rencontre en 20 minutes.
Oui, surtout que ici, Vita a fait illusion en première mi-temps, c'était parce qu'il avait choisi de marquer très haut l'équipe du Raja et avait comme atout principal l'abattage physique. Mais dans ce style-là, on ne peut pas s'exprimer pendant 90 minutes. Donc, Raja a été tout simplement patient et a attendu que le rythme physique de Vita baisse, surtout que cette équipe n'a à aucun moment présenté un bloc hermétique, comme c'est le cas souvent quand une équipe joue à l'extérieur. Et donc, par la suite, le Raja a eu la bonne idée de faire jouer les côtés, et notamment le côté gauche, où toutes les actions sont venues et finalement le score est logique, même si à réduit à 10, le Vita a failli marquer un but qui pouvait le ramener encore dans le jeu et ma foi n'aurait pas, et le score de 3-1 n'aurait pas été mérité.
3-0, on le rappelle. Et donc Amdine, il appartient aussi au coach de savoir rectifier le tir quand le plan de départ a été déjoué. On écoutait Florent Ibengué tout à l'heure et c'est ce qu'il semblait vouloir dire.
Tout à fait, il a raison, et Florent Ibengué en disant que c'est pour un, on laissait quand même les Marocains jouer à leur lève, parce que si on regarde quand même la première mi-temps, on constate que c'est le Raja qui a dominé, mais comme l'a dit Amine Birouk tout à l'heure, il confondait vitesse et précipitation. À la mi-temps, peut-être l'entraîneur a trouvé le mot juste pour leur demander d'être patient, de jouer leur jeu, et cela a porté ses fruits. Finalement, ils ont remporté cette première manche, le score de 3-0. C'est une option sérieuse pour prendre cette coupe, mais depuis un certain temps, depuis un certain remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, les observateurs avertissent, restent prudents, parce que je l'ai dit lors d'une émission, les matchs aller-retour, c'est comme un match de football où on joue deux mi-temps. La première a été gagnée largement par les Marocains, mais comme on dit les Anglais, wait and see, puisque Florent Ibengué aussi reste un grand entraîneur, mais il faut le dire, les cartes semblent cuites pour les Congolais Yacouba.
Merci bien. Amdine, alors Élysée, le Raja Casablanca a fait le plus difficile, sans doute, mais il faudra savoir gérer au match retour, comme Amdine le disait tout à l'heure. On se souvient encore de cette finale renversante en Ligue des Champions entre Al Ahly et l'Espérance de Tunis, même s'il y avait eu des erreurs d'arbitrage lors de cette rencontre-là.
Oui, c'est seulement au niveau du match aller qu'on a assisté à une erreur d'arbitrage. Le match d'hier a vu complètement un autre visage du football africain, puisque on ne s'y attendait pas du tout. Les deux équipes, n'oublions pas, elles se sont déjà affrontées en match de poule où les Congolais ont fait bonne impression, surtout à Kinshasa. C'est vrai que déjà au match aller, on a vu deux grandes équipes qui ont un très bon niveau et qu'au retour, les Congolais arrivaient à les maîtriser et que cette fois-ci, l'entraîneur du Raja a profité du match retour du Vita Kinshasa pour revoir ce qui n'a pas marché, puisque déjà le score était de 0 but partout à la mi-temps et qu'en deuxième partie, les Marocains ont déroulé simplement pour marquer 3 buts. Il faut dire que déjà, ça veut dire qu'on a déjà assisté déjà à la finale de cette coupe. C'est vrai que tout reste possible pour les Congolais à Kinshasa au stade des Matis, mais attention, on connaît bien sûr ces clubs maghrébins. J'allais dire, beaucoup d'expérience. C'est vrai que Ibengué en a également, puisqu'il a déjà joué une finale de la Ligue des Champions. Il a, depuis trois saisons et bien, l'AS Vita Club joue les premiers rôles en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a une année où l'équipe a été suspendue pour avoir lié un joueur qui n'était pas éligible. Donc, c'est-à-dire que l'AS Vita Club a aussi l'expérience qu'il faut pour aller chercher, pourquoi pas, 4 buts. Mais je vois mal face à cette équipe de Raja, les ex-verts, comme on les appelle, cette équipe qui a beaucoup d'expérience et qui a déjà appris beaucoup de choses lors de ces déplacements durant cette compétition de la CAF.
Merci bien, Élysée. Florent Ibengué, l'entraîneur de Vieux Club, l'a reconnu, je le cite complètement. On a complètement été battus dans les duels, on les a attendus contrairement à ce qu'on avait prévu et on a laissé jouer cette équipe de façon extraordinaire. Le Raja a pu développer son jeu comme il le voulait, on n'a pas été là, on était complètement absent. Alors Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Vous avez entendu sans doute ce que je disais bien sûr de Florent Ibengué. Alors il faudra prendre les choses en main au match retour.
absolument prendre les choses en main en match retour et surtout faire un tout autre match que celui que votre club a produit hier à Casablanca. Les Dauphins Noirs qui sont passés totalement à côté de cette finale aller. Hein. Mes prédécesseurs ont quasiment tout dit. D'ailleurs, ça a été un miracle de terminer la première période sur le score de 0-0. C'était surtout dû à la maladresse des Marocains, eux qui s'étaient procurés déjà d'une tirielle d'occasion. Ils se sont montrés plus adroits et ont profité des largesses défensives des Verts et Noirs pour en mettre trois en seconde période. Le club qui en plus a eu la malchance dès le début de cette seconde période, de cette première période, pardon, de perdre son meilleur buteur Jean-Marc Marcus Mundele, qui en a planté 10 dans cette compétition. Donc cet enchaînement des malchances et surtout de maladresse avec club qui vraiment est passé à côté de ce match, problème qui a laissé venir cette équipe. Il n'a pas pu à un certain moment réagir, problème d'alignement, mauvaise défense, bref, les Verts et Noirs et leur entraîneur l'a reconnu, sont passés totalement à côté de cette finale aller. Ils devraient reproduire une nouvelle copie à Kinshasa ce dimanche. Eux qui sont impériales à domicile, eux qui en ont mis 4 lors de la demi-finale aller au stade des Martyrs de Kinshasa. On verra bien ce que ça va donner, mais ça sera très difficile. Et mon prédécesseur l'a dit, face à une formation de Raja qui, en termes d'expérience et le nombre de titres gagnés en Afrique, est de loin devant l'association sportive V-Club. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, du côté des Verts et Noirs, et l'entraîneur et tous les joueurs que nous avons interrogés après cette finale aller sont convaincus que la remontada est possible. Ils devraient absolument le prouver sur le terrain ce dimanche au Stade des Martyrs.
Alors Thierry, on reste avec vous, justement, dimanche au Stade des Martyrs. Alors dites-nous, dans quel état d'esprit sont les Congolais après cette défaite et qu'est-ce qu'ils entendent faire justement pour réaliser cette fameuse remontada?
Il faut réagir positivement, ne pas confondre vitesse et précipitation, entamer le match différemment de la finale aller, savoir que cette formation va certainement se replier, on va dire, va se regrouper derrière, le bloc sera bas, il va laisser venir V-Club et essayer de procéder en contre. Et dans ce système de jeu, V-Club s'est déjà fait prendre plus d'une fois, même au Stade des Martyrs. Donc il faut absolument bien préparer, déjà au niveau de l'état d'esprit, ne pas se montrer si défaitiste, croire que c'est possible de mettre 4 buts à la formation du Raja, comme elle l'a fait au match aller à Casablanca. Et si le club peut en mettre 1 ou même 2 dès la première période, je pense qu'avec la détermination du 12e homme du Stade des Martyrs, je pense qu'avec la détermination également des joueurs, ça sera possible d'en mettre 4. Mais attention, la
défense, on va essayer de reprendre Thierry un peu plus tard. Donc vous suivez Sporama, suivez Ouafrique, l'émission revient tout de suite. On parle toujours de la Coupe CAF, mais cette fois-ci de l'édition suivante qui démarre dès demain et mercredi aussi pour le tour préliminaire. Alors Amine, alors que le nom du vainqueur de la Coupe de la Confédération 2018 n'est pas encore connu, eh bien l'édition 2018-2019 prend son envol.
Je prends son envol avec un nouveau calendrier, nouvelle échéance. D'ores et déjà affirmé qu'on va se caler à des dates normales et que les équipes, par exemple, de la zone Afrique du Nord pourront bénéficier au mois de juillet, d'août et de septembre de plages de récupération de repos, chose dont elles ne bénéficient pas lors de toutes les saisons, puisqu'elles sont à cheval ou elles participent à cheval sur deux saisons. Aujourd'hui, la CAF arrive à un calendrier beaucoup plus rationnel. Cela implique une saison de transition, celle-ci, du 2019, avec évidemment un début de compétition à partir du mois de décembre et un calendrier resserré, ce qui suppose qu'à début juin, nous aurons des vainqueurs de la Champions League et de la Coupe de la CAF 2019. Et à partir de 2019-2020, un calendrier beaucoup plus normal, beaucoup plus rationnel, avec un début de compétition en septembre, comme en Europe, comme un peu partout dans le monde, et un dénouement au mois de mai. Cela suppose aussi respecter le calendrier des compétitions CAF, respecter le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations qui cette année aura lieu au mois de juin, Et évidemment, on se retrouvera avec des équipes qui n'auront pas beaucoup de repos, puisque le vainqueur de la Coupe de la CAF et le vainqueur de la Champions League, les finalistes aussi, auront terminé la saison 2018 au mois de novembre et entameront leur campagne un mois plus tard.
45 équipes seront présentes hein, pour ce premier tour. Elles devaient être un peu plus, mais la Fédération camerounaise n'ayant pas communiqué dans les délais le nom de sa deuxième équipe, la Chantilly Kotoko de Kumasi entrera en compétition en 16e de finale. Le pays des Lions Indomptables devra désormais compter sur un seul club dans cette compétition, en l'occurrence New Star, qui affrontera les Burundais de Vital O. La FECAFOOT n'a pas pu organiser à temps la finale de la Coupe nationale entre Edding Sport et Lyon Blessé de Fotouni, dont le vainqueur devait affronter les Ghanéens d'Ashanti Kotoko. Alors, Jules, sacré Camerounais, ai-je envie de dire.
Oui, ça fait désordre. On sait que c'est un problème récurrent au Cameroun que l'organisation de la finale de la Coupe. Et c'est surtout, il y a des présentateurs politiques qui sont liés le plus souvent au calendrier politique, justement, du pays. Et on attend qu'il y ait une sorte de dégagement d'activité pour pouvoir programmer la Coupe. Donc, c'est vraiment, ça fait des ordres dans un pays qui se veut un pays leader, un pays moderne en Afrique en matière de football.
Merci bien, Jules. Ailleurs, 8 autres clubs ont, en raison de leur classement, un accès direct au second tour. Les Égyptiens d'Al Masry et du Zamalek, les Libyens d'Al Ahly Tripoli, les Marocains du Raja Casablanca, les Ougandais du Kampala Kassissié, les Soudanais d'Al Hilal Obed et les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, et bien sûr du CS Sfaxien, triple vainqueur de l'épreuve, sont dans les starting blocks 4 anciens champions d'Afrique, le Stade d'Abidjan, l'Ashanti Kotoko, le Zamalek et le Raja Casablanca. Alors, Amdine, parmi les affiches de ce premier tour, de ce tour préliminaire, si vous voulez, on aura une certaine génération foot du Sénégal contre le Djoliba AC du Mali.
Je dirais, Yacouba, que le Djoliba du Mali part avec la faveur des pronostics, comme vous le savez. Au Sénégal, le foot local est un peu à la traîne hein, parce que depuis un certain temps, on n'arrive plus à avoir quand même des équipes au niveau des phases de poule. Il faut remonter à 2004 pour voir une équipe sénégalaise jouer des phases de poule. C'était la Gendarme de Dakar qui s'était qualifiée en demi-finale. Depuis lors, c'est vraiment la disette, hein, comme je peux l'exprimer ainsi, puisque les clubs du Sénégal font 1-2 tours, puis ils disparaissent. C'est vrai que l'année dernière, le club de Génération Foot, qui est un centre de formation, qui est partenaire du FC Metz, avait quand même fait un peu d'effort en tenant en tête Berkane du Maroc, mais il faut dire que les clubs sénégalais ne sont pas bien lotis par rapport à ces compétitions africaines. Mais maintenant, on va voir ce que cela va donner. On va essayer de travailler encore pour pouvoir quand même passer l'étape. Mais comme on le dit, au niveau du Mali, les clubs se comportent très bien au niveau des compétitions africaines. C'est pourquoi je dis que Djoliba part avec la faveur des pronostics face à Génération Foot Yacouba.
La saison 2018-2019 de la Ligue des Champions démarre dès demain aussi. Elles seront 52 équipes à prendre le départ les 27 et 28 novembre. D'habitude, la saison démarrait au mois de février, mais la CAF a choisi de modifier largement son calendrier cette fois-ci. La saison commencera au mois de septembre pour s'achever au mois de mai. La plus grande modification concerne la CAN, dont la prochaine édition se déroulera au mois de juin et juillet. 52 équipes seront rejointes par 4 autres en 16e de finale, à savoir Al Ahly, l'AS Vita Club, le TP Mazembe et le Wydad de Casablanca. Alors Thierry, 20 clubs est rassuré de jouer une compétition africaine, notamment la Ligue des Champions, peu importe l'issue de la finale en Coupe CAF. Thierry ?
Absolument, parce que les Verts et Noirs sont champions du Congo antille, ceux qui ont remporté la précédente édition de du championnat de la Ligue 1 ici en République démocratique du Congo. Donc, peu importe les verdicts de la finale de la Fédération africaine la saison prochaine.
Et donc, merci bien Thierry, la ligne est vraiment désastreuse. À ce stade de la compétition, il est difficile de formuler le moindre pronostic. Alors, Élisée, on est en train de plein pied dans la course à la découverte et aux révélations, surtout pour ce tour préliminaire.
Yacouba, on aura de très belles confrontations, il faut le dire, puisque la CAF a décidé un peu de changer la période de cette compétition. Ce sera peut-être identique à celle qu'on a l'habitude de suivre en Europe, puisque désormais, c'est une compétition qui va démarrer. C'est une saison de transition, j'allais dire, puisque ça commence bien évidemment en novembre et ça va prendre fin déjà en mai, histoire de permettre à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu peut-être au Cameroun à partir de juillet 2019. Donc c'est dit que si on pouvait avoir la même programmation que la Ligue européenne ou bien l'Europa League en Europe, ce serait une très belle chose, puisqu'il y a des pays qui ont la même programmation que les championnats européens, notamment les grands championnats d'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, pour ne citer ceux-là, même la Côte d'Ivoire et bien le Sénégal ont choisi presque la même période. Donc c'est dit que si déjà cette programmation peut permettre à d'autres pays de se conformer à cela, on aura peut-être une bonne compétition, puisque depuis près de 2 ans, on sent que le niveau de cette Ligue des Champions a commencé par changer. C'est vrai, on n'aurait pas misé gros sur le succès, la victoire de l'Espérance de Tunis face au National du Caire. Vous avez vu la qualité de la rencontre. Depuis un certain moment, il y a même l'Afrique noire qui peine à se créer ou bien à se donner un vrai nom dans cette compétition, depuis que le tout-puissant Mazembe ou encore les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns n'ont plus le niveau qu'il faut. Eh bien,
l'Afrique
noire peine dans cette compétition. On espère que cette...
Oui, Élisée, merci bien. Alors, dans l'actualité de la semaine aussi, notamment en fin de semaine dernière, on a appris la confirmation de la retraite de Didier Drogba. L'ancien international ivoirien a confirmé qu'il mettait un terme à sa carrière à 40 ans après avoir disputé une dernière saison sous le maillot de Phoenix en deuxième division américaine. Alors, Jules, la fin de carrière de Didier Drogba ne marque-t-elle pas aussi la fin d'une ère, sans manquer de respect aux stars africaines, bien sûr, du moment. Je vais dire une époque d'attaquants africains véritablement redoutables. Je pense aussi à Samuel Eto'o avec cette rivalité supposée ou réelle entre les deux.
Oui, bien sûr. Et pendant près de 10 ans même, l'Afrique a eu les deux meilleurs avant-centres du monde, un en puissance, Didier Drogba, et l'autre en finesse, Samuel Eto'o. Et ça, c'est, je crois que c'est des genres de situations qu'on ne retrouve pas régulièrement. Il faudrait remonter jusqu'à George Weah dans les années 80 pour trouver une telle situation. Je pense que sans faire injure à ceux qui sont actuellement sur le terrain, Didier Drogba et comme son frère Samuel Eto'o, c'est quelque chose d'un peu plus.
Alors, je le cite, je cite Didier Drogba. Je pense qu'après 20 ans, avec tout ce que j'ai appris aux côtés des grands joueurs et managers avec lesquels j'ai joué et que j'ai affronté, c'est quelque chose que je ne peux pas exclure. Et donc, il parlait bien sûr de la question. Il répondait à la question de savoir s'il va embrasser une carrière d'entraîneur. Alors, Amdine, très rapidement, il faut le reconnaître aussi, les grands joueurs ne sont pas nécessairement de grands entraîneurs.
Tout à fait. Un ancien grand joueur n'est pas forcément un grand entraîneur, c'est vrai. Mais Didier Drogba n'est pas seulement un grand joueur, c'est un grand monsieur. On se rappelle encore de la Ligue des Champions qu'il a offert à l'équipe de Chelsea en égalisant contre le grand Bayern de Munich dans les arrêts de jeu. C'est un joueur fantastique. Didier Drogba et Samuel Eto'o ont fait une fierté pour l'Afrique au niveau du continent européen. C'est pourquoi je pense qu'il est tellement intelligent qu'il peut devenir un bon entraîneur. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Ce sera en même temps votre mot de fin. On vous dit bonsoir dans Loyaux, ici aux États-Unis. On est en direct aussi avec Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Merci, monsieur. Élisée Mpantine était avec nous depuis Boïcon au Bénin. Thierry Kamboundi de Top Congo FM et Amine Birouk, bien sûr, depuis Casablanca. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission Sporama sur VOA Afrique. Une émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. À la réalisation, c'était Joseph Morissin et à la concerne Alfredo Santos. Merci à vous, on se dit à lundi prochain.